Je te parle d'un pays qui n'est plus un paradis, mais où dansent des paysannes aux candeurs d'une courtisane, sautent les gens tarlatanes. C'est comme couler dans mon sang, caché sous ma peau d'ébène. Son odeur de citronnelle qui se fond dans la cannelle, son petit goût de caramel. Ou pas qu'à tromper, non, je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper, non, ou pas qu'à acheter. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. La misère nous fait la peau, nous m'adonne un caracol. Laisse la plage aux abricots sur de tout petits bateaux, mais elles gardent leur drapeau. Dis bonjour, comment nous y est? Trop longtemps, moi pas goûté. En godé, j'ai grenadine, en tablette, tout ce cocoyer, mais la pulpe de mandarine. Ou pas qu'à tromper, non, je ne vais pas marcher. C'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas me tromper.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
11h07 sur Aligre FM 93.1, la suite de votre magazine littéraire Au fil des pages, consacré ce matin à 10h au festival Formula Bulla qui ouvre ses portes demain. Et c'est Emeline Michel qu'on entend maintenant pour accueillir une invitée que j'ai un immense plaisir à avoir ce matin à ce micro. Yannick Lins, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission pour un roman qui vient de sortir aux éditions Sabine Vespizer, qui vous êtes fidèle.
Oui.
Un roman très joliment intitulé Passagère de nuit. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il faut rappeler que vous avez à votre actif de très nombreux romans, que vous avez été également titulaire de la chaire sur la francophonie au Collège de France. C'était, je crois, en 2019.
Oui,
vous êtes,
2019.
Vous avez été la première à être nommée, voilà, oui, titulaire de cette chaire. Vos romans sont traversés par ce que vous avez appelé lors de votre discours inaugural, urgence d'écrire, rêve d'habiter. C'est un peu aussi le cas, urgence d'habiter, de vos deux héroïnes dont on va parler tout à l'heure dans ce récit en miroir. Elisabeth, qui naît à la Nouvelle-Orléans. Mm-hmm. Et qui quitte ce pays pour embarquer direction Port-au-Prince et s'affranchir de la domination possible et de la violence des hommes, d'un en particulier. Et dans un deuxième miroir, c'est la voix de Regina qu'on entend. Nous sommes cette fois à Port-au-Prince et le bruit de l'histoire en marche d'Haïti, cette histoire tellement grande qui nous rend plus grands que nous, première république créée par des esclaves qui se sont affranchis eux-mêmes à travers une révolution en 1804, naissance de la République d'Haïti. Le bruit de cette histoire en marche traverse donc l'histoire de vos personnages. Alors, avant de rentrer dans ce... C'est votre 14e roman, je crois.
Ah, je ne sais plus.
Vous ne comptez plus. Eh bien, vous avez raison de ne plus compter. Alors, en 2014, vous avez reçu le prix Fumina pour un magnifique ouvrage, Bain de lune. Et cette fois-ci, ce roman, c'est un roman sur deux Amazones, deux femmes insoumises.
Oui, d'abord, bonjour.
Bonjour, pardon.
Oui, deux femmes insoumises et puis qui transmettent finalement le savoir survivre, le savoir tenir les piliers de la maison, le savoir de la joie comme force et du silence comme force. C'est tout cet héritage-là. En quelque sorte, oui, puisqu'il s'agit de mon aïeul et de ma bisaïeule, bien que j'ai tout inventé, puisqu'il y avait le silence autour de ma biographie elle-même. Mais cet héritage, oui, je le sens, et je le vois, je l'expérimente en regardant vivre les femmes autour de moi en Haïti.
Alors, ces deux femmes sont des femmes qui usent beaucoup dans leur rapport à cette machine à briser des vies, hein, qui usent beaucoup de la force du langage, mais aussi de la force du silence, vous le disiez à l'instant. C'est une histoire de transmission par des aïeux. La grand-mère d'Elisabeth, par exemple, lui apprend la puissance du silence, l'importance du silence et l'importance de savoir dire oui quand on pense non. Ça, c'est le creuset de la résistance.
Oui, c'est une forme de résistance parce que quand on est en situation de dominer, on affûte des armes qui n'ont rien à voir avec les armes de celui qui domine. Donc c'est une façon certainement de le dérouter et de mettre cette distance entre sa vérité et ce qu'il perçoit lui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par se rendre compte que celui qui est dominé connaît le monde du dominant, mais lui ne connaît pas ce monde à elle, donc ces deux femmes, et ça lui donne une supériorité, ça lui permet de tenir. Et je vois jusqu'à nos jours, quand je regarde les femmes en Haïti, ce sont des femmes qui ont une force économique. Toute l'économie informelle est tenue par les femmes. Elles ont une force sociale, culturelle aussi, puisque dans les villes, elles forment vraiment les familles monoparentales, souvent. À la campagne, c'est autre chose, c'est la famille communautaire. Et malheureusement, cette force culturelle, cette force économique n'est pas traduite, comment je pourrais dire, dans une représentation politique, ou bien elle n'entre pas dans le système de l'économie formelle, donc on ne peut pas vraiment évaluer. Mais c'est elle qui nourrisse, habille, enfin, tout ce que les gens veulent acheter dans les rues, les 80% des gens, ce sont les femmes qui tiennent ça. Voilà, donc on sent qu'elles transmettent cette chose-là. Et même les paysannes qui arrivent pour vendre, je ne sais pas, le produit de la terre, dans les montagnes autour de Port-au-Prince, elles sont extraordinaires parce que c'est elles qui laissent la campagne pour aller vers la ville. Donc c'est aussi la femme qui fait la liaison de la campagne à la ville. Donc vraiment, elles ont un rôle central qui permettent de tenir malgré la violence, malgré le chaos, malgré les violences qu'elles subissent elles-mêmes. Et elles ont cette détermination et puis cette joie qui continue malgré tout et en dépit de tout.
Alors, il y a aussi chez ces femmes le sang de l'histoire qui coule, de l'histoire notamment de l'esclavage. Mmh. Et vous parliez de l'importance de la transmission. Il y a dans votre roman, Passagère de la nuit, un très beau récit de la grand-mère d'Elisabeth dans la première partie de votre roman, qui traverse une autre nuit, celle des cales, des négriers et de la traite atlantique, et qui rappelle combien ce moment de l'histoire a forgé chez les femmes qui étaient considérées en particulier comme des objets par les hommes, dont le corps était considéré comme un objet de convoitise et d'assouvissement de pulsions, a pu faire naître un esprit de résistance. En tout cas, c'est le cas de la grand-mère et d'Elisabeth. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas dans l'histoire même d'Haïti quelque chose Franck-Étienne, qu'on va écouter tout à l'heure, parle de la condescendance avec laquelle on dit d'Haïti, il y a une résilience chez ces peuples. C'est plus fort que la résilience.
Ah non, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup non plus. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui n'aiment pas ce mot, parce que c'est pas quelque chose... Nous sommes naturellement résilients. Ce serait encore une manière d'étiqueter à partir d'une essence. C'est pas ça. C'est pas l'essence haïtienne qui serait résiliente. C'est l'histoire qui nous apprend des stratégies pour continuer à exister, parce que c'est énorme ce qu'a fait Haïti en 1804. Défier le projet de la modernité en en faisant remarquer quelles sont les limites de cette modernité, quelles sont ses contradictions. Parce que le premier grand, la première grande révolution, c'est la révolution américaine, qui quand même fait avancer les libertés individuelles, mais l'esclavage continue. Quand on prend la révolution française des droits de l'homme, la colonisation va continuer. Donc Haïti va plus loin, même que du projet des Lumières, il dit non, tous les hommes sont égaux. Donc quelque part, on le paie, puisqu'on n'entre pas complètement dans cette modernité-là. Donc, il y a cette capacité à être en dehors, un pays en dehors du circuit. Voilà, on a toujours été, et on a été le premier pays des relations Nord-Sud, en quelque sorte. Donc, on le porte, on le traite. Et je ne veux pas non plus dire que la révolution haïtienne a été parfaite. Aucune révolution n'est parfaite, elle est toujours imparfaite et inachevée, dans la mesure où ceux qui reprennent le pouvoir après ont essayé de reproduire le seul modèle qu'ils connaissaient, c'était la grande plantation, alors que 70% des gens qui étaient fraîchement arrivés d'Afrique, de tribus différentes, d'ethnies différentes, et ont refusé le système de la grande plantation. Et ont créé justement cette culture majoritaire, communautaire, enfin, écologique d'ailleurs, très en avance, et ce qui n'avait rien à voir avec le modèle qu'on proposait. Et je crois que c'est cette chose impensée à l'interne que nous traînons jusqu'à aujourd'hui, et qui explique tous les problèmes de discrimination que nous avons internes. Donc, oui, sur le plan externe, il y a eu 1804, il y a eu cette révolution, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inachevées sur le plan interne, et qui nous vaut d'être là. Maintenant, je pense que les 70%, 80%, leur premier réflexe a été de laisser la ville et d'aller. Donc, c'est encore une stratégie d'évitement. De cette chose-là. Et aujourd'hui, comme il y a une urbanisation, il n'y a pas d'évitement, mais on apprend à vivre avec une oppression qu'on sent très grande. Mais on doit vivre avec, donc on établit des stratégies pour le faire. C'est surtout ça.
Et vous parlez de fractures, de clivages sociaux qui traversent la société haïtienne et dont on a dans votre roman les prémices ou à travers le personnage de Madame Merisier, par exemple, hein, qui est vraiment l'incarnation d'une hiérarchisation genrée et ethnique amène à la haine de soi qui se projette sur la haine de l'autre, Madame Merisier. Donc c'est un personnage qui vit à Port-au-Prince et qui accueille la deuxième héroïne de votre roman, qui se scinde en deux récits qui se rejoignent dans
la
histoire.
Voilà, à un moment donné, on ne va pas tout dire.
On ne dit pas tout. C'est parce qu'effectivement, il ne faut pas tout dire. Mais j'ai trouvé ces pages extrêmement fortes sur la haine de soi. Ce personnage de Madame Merisier maltraitante, extrêmement violente, et qui, au fond, exprime quelque chose aussi de ce métissage qui a conduit à une hiérarchisation ethnique. Voilà.
Oui, parce que l'imaginaire colonial continue après que la colonisation a été abolie. Donc, elle continue parce que l'imaginaire colonial, c'est l'imaginaire dominant dans le monde, enfin, quelque part. Donc cette hiérarchisation à la fois des valeurs, des couleurs. Par exemple, un colon comme Moreau de Saint-Méry, pourtant partisan de la Révolution française, franc-maçon, enfin, etc., fait une hiérarchisation de 19 tons de couleurs, de peau, allant du blanc qui est la couleur supérieure jusqu'au noir et d'ébène qui est la plus inférieure. Imaginez 19 têtes de peau, enfin, vraiment avoir du temps à consacrer à des choses aussi incroyables. Mais ça traverse une société, cette hiérarchisation. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on a encore l'héritage de ce qu'on appelle le colorisme, qui n'est pas seulement propre à Haïti. Aux Antilles françaises, vous retrouvez la même chose, un peu aux États-Unis. C'est normal, puisqu'il y a un imaginaire qui continue dominant autour de la couleur de la peau. Voilà.
Et qui conduit finalement à reproduire le modèle colonial.
Quelque part. Une sorte de colonisation interne de l'imaginaire. Oui, forcément. Et ça aussi, c'est l'imperfection de l'intérieur dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a tout un travail qu'on doit continuer à faire. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que depuis le Black is Beautiful des Noirs américains, depuis le mouvement de l'indigénisme, il y a quand même une reconnaissance de ces contradictions et un travail précisément sur l'imaginaire qui s'est fait et qui continue à se faire. Heureusement, les jeunes générations ont beaucoup moins ce genre de... En fait, ne sont pas aussi portées par cet imaginaire post-colonial, enfin, qui continue d'être. Et c'est très bien que des jeunes maintenant, beaucoup de jeunes dans les nouvelles générations, sont beaucoup plus traversés par l'idée justement de reprendre, de s'accepter et de l'estime de soi, voilà. Et c'est bien. Ça, c'est une bonne chose.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et c'est peut-être aussi le résultat de ce long voyage dans la nuit, hein, qui traverse les générations, mm-hmm. et qui apprend, je vous cite, à absorber la douleur comme un apprentissage patient, entamé très tôt, entamé dans l'histoire même d'Haïti, et notamment par les femmes qui, on le voit dans votre livre, contribue à transmettre le meilleur comme le pire. Mmh. Et votre roman est habité par une langue extrêmement vibrante qui fait intervenir très souvent des mots du créole. Ce n'est pas la première fois. Et chaque fois, je me dis, mais peut-être que, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ça oblige le lecteur à se décentrer totalement. Et ça contribue aussi à faire de ce pays, Haïti, où se parlent plusieurs langues, je crois, l'anglais, le créole, le français, c'est ça ?
Je vais expliquer.
Une façon de participer à l'intelligibilité du monde et en obligeant le lecteur blanc, je vais dire aussi, à aller vers cette langue-là, à aller dans cette langue-là, dans les vibrations de cette langue-là.
Oui, parce que, en fait, durant peut-être les 30 dernières années, il y a eu une véritable avancée de la langue créole quant à son statut. En 1987, le créole est devenu une langue officielle comme le français. Donc, c'est énorme. Mais il n'y a pas eu de politique d'aménagement linguistique. Bon, donc, les cours continuent à se faire en français majoritairement. Mais le créole est aujourd'hui en Haïti la langue de l'espace public. C'est-à-dire que 95% des radios se font en langue créole. Donc, le créole a acquis un statut vraiment majeur. Je crois que c'est une centralité. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, quand je regarde les jeunes écrivains, de 30, 40 ans, ou 20, il n'y a plus le besoin de militer pour la langue créole. Donc, ils écrivent, parce que notre génération l'avait déjà fait, et celle qui m'a précédée. Donc, ils écrivent indifféremment en créole ou en français, ce qui est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas de... Ils le font spontanément comme leur ressenti de... Maintenant, l'immigration a fait quoi ? Enfin, l'émigration plutôt, c'est qu'on a toute une population haïtienne, et ce n'est pas seulement Haïti, beaucoup d'écrivains du Sud qui vont dans les métropoles du Nord, écrivent dans les langues du pays d'accueil, mais parlent de leur pays. Donc on va avoir une littérature haïtienne, puisqu'on ces gens la parlent d'Haïti, mais en anglais ou en espagnol. Donc c'est intéressant aujourd'hui. On questionne qu'est-ce que c'est que la littérature nationale en 2025. On ne peut plus considérer la nation comme on la considérait au 19e siècle. La migration va changer la donne partout. Donc un patrimoine ou un matrimoine littéraire forcément est à cheval sur plusieurs espaces. Et ça, Haïti, ça fait une vingtaine d'années que nous savons que nous avons un patrimoine littéraire, dans quatre langues. Le créole, l'espagnol, et Louise Dantica, on la considère comme une écrivaine haïtienne. Et en même temps, elle est une écrivaine américaine. Et puis, je ne sais pas, il y a un poète au Chili, là, Jean-Jacques Pierre-Paul, et Micheline Dussek qui le fait en espagnol. Donc, c'est un peu une sorte de longueur d'avance sur le monde en train de se faire. Et la littérature permet d'avoir cette longueur d'avance qui est extrêmement intéressante. Quelqu'un comme Édouard Glissant parle du multilinguisme comme quelque chose de très libérateur pour l'avenir, on commence à le faire dans la littérature haïtienne. Donc, l'émigration n'a pas que des effets économiques. Culturellement, c'est énorme ce qui est en train de se faire.
Et il est question d'exil, de va-et-vient. Hein, dans
depuis
votre,
la naissance d'Haïti, la question.
Oui, c'est ça. Mais là, il y a deux lieux dans votre roman, La Nouvelle-Orléans et Port-au-Prince,
oui.
Avec ce moment de l'histoire où beaucoup d'Haïtiens, colons, mais aussi
affranchis,
quittent
Saint-Domingue.
Saint-Domingue en effervescence pour se rendre à la Nouvelle-Orléans et se tissent des liens avec ceux qui sont restés. C'est un pan de l'histoire qui n'est peut-être pas suffisamment connu des profanes.
Voilà, et je crois que c'est vrai, c'est à la fois pas assez connu en Haïti, mais pas assez connu aussi de la France, parce que c'est aussi l'histoire de la France. Les Français n'imaginent pas, c'est leur histoire, parce qu'à ce moment-là, la Nouvelle-Orléans est encore française. Napoléon va vendre la Nouvelle-Orléans justement après la Révolution haïtienne, mais toute cette période, c'est l'histoire de la France. Et la Nouvelle-Orléans va être à ce moment-là un lieu de rencontre. C'est une culture créole qui se fait à la Nouvelle-Orléans à ce moment-là. Quand je dis créole, c'est la rencontre des affranchis venant de Saint-Domingue, des colons venant de Saint-Domingue, des Noirs libres, pirates, enfin clandestins, des Acadiens qui viennent du Canada parce qu'il y a les Anglais qui arrivent, donc ils descendent, etc. Les Indiens qui commencent à voir qu'il y a peut-être la possibilité de vendre des peaux de bêtes, etc. Donc, la Nouvelle-Orléans est un melting pot, c'est un endroit extraordinaire à cette époque-là. Et d'ailleurs, la culture de la Nouvelle-Orléans est restée telle, presque. Aujourd'hui, quand on va à la Nouvelle-Orléans, on sent qu'il y a autre chose que l'American way of life. Mm. Et on ne sait pas assez aussi comment la culture de Saint-Domingue va influencer la musique. Quand on parle de Creole Origins of Jazz, ça revient de Saint-Domingue, la musique.
La danse.
La danse, la religion, parce que le vaudou comme pratique religieuse est officialisé depuis 1817, c'est incroyable. Et contrairement à Saint-Domingue, toutes les classes sociales pratiquent ça. Alors que, voilà, c'était différent. La cuisine est influencée par ça. Et la langue, parce qu'on va parler aussi à la fois français et un créole qui est un mélange de toutes les langues de ceux qui sont là-bas. Donc j'ai voulu un peu restituer cette rencontre exceptionnelle qu'il y a eu à ce moment-là. Et on ne le dit pas assez. Et par exemple, je ne sais plus quel historien disait qu'à la Nouvelle-Orléans, on ne consignait officiellement que peut-être 20% ou 30% de ce qui se faisait comme échanges commerciaux. Tout le reste était fait dans des petits ports clandestins que les gens aménageaient, etc., pour échapper à la taxation, etc. Donc c'est toute une culture très particulière qu'il y avait dans cette ville. Et aujourd'hui, quand on regarde par exemple le carnaval à la Nouvelle-Orléans, c'est un mélange de culture afro et de culture indienne. Donc on n'imagine pas ce qui a pu se passer à ce moment-là dans cet endroit. Donc après la guerre de sécession, les gens sont arrivés du nord et ont amené la culture puritaine, protestante américaine. Et là, le pays avait déjà été vendu aux Américains par Napoléon. Donc c'est aussi une partie de l'histoire de France. Comme c'est une partie de l'histoire d'Haïti que les Haïtiens connaissent peu, mais les Français connaissent peu aussi cette partie. Donc moi j'ai été extrêmement enthousiaste de lire tout ça et de découvrir tous ces aspects. Et quand j'ai su que ma bisaïeule arrivait de la Nouvelle-Orléans, ça m'a permis de faire jouer l'imagination. Voilà. À partir de tout ça.
Et la Nouvelle-Orléans, c'est un peu le creuset de ce que Franck Étienne appelait très joliment, refusant le mot mondialisation, parler de mondialité plutôt.
Oui, c'est la rencontre, non pas dans le sens de valeur, comme quoi le progrès serait la chose la plus idéale, c'est-à-dire dans la mesure où, par exemple, il y a ce dualisme, nous sommes les hommes et le reste du vivant, nous n'avons aucune relation avec ce vivant-là. Quand on va là, le vivant, c'est nous et tout ce qui est autour. Et ça, oui, c'est intéressant, parce qu'on va retrouver ça dans toutes les cultures du monde. Avant justement ce progrès de la modernité qui pense que voilà, on va avancer très bien et puis qui va amener aussi des formes de catastrophes. Voilà.
Je propose Yannick Lins d'écouter Franck Etienne, c'était au micro de Philippe Vanini au festival Étonnant Voyageur en 2017.
Trop souvent, avec un peu de dédain, on parle de résilience, c'est-à-dire un terme très proche de la résignation. Nous ne sommes pas des résignés. Moi, je me permets de parler au nom de mon peuple. Ce que nous avons supporté pendant l'histoire, ce que nous avons enduré pendant une longue histoire de terreur, d'épouvante, d'esclavage, ça nous a permis d'avoir une vision du monde. C'est une vision du monde. L'haïtien se dit, bon, ok, ça va, ça passe. D'autant plus que nous sommes une terre de culture. Notre richesse, elle n'est pas dans la possession des objets matériels, ce qui est devenu la mode depuis plus d'un siècle. On s'enrichit démesurément, parfois, et en exploitant outrageusement, en exploitant exagérément les autres. Et alors nous disons que tout passe, tout se casse, c'est bien, on verra. On verra dans 10 siècles, on verra dans 5 siècles, pourquoi pas, on verra dans 50 ans. Et nous sommes devenus ainsi, dans une sorte de dérision, d'autodérision qui caractérise même la vie en Haïti, où il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Sur ce plan-là, nous sommes modernes, nous rejoignons les préoccupations des grands savants de la relativité ou de la physique quantique qui disent la même chose que nous. Et Einstein parlait déjà du continuum espace-temps, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace. Ou s'il y a un temps, il n'y a que le temps présent qui est perpétuel. Donc nous vivons un perpétuel présent. Et la physique quantique a montré toutes les incertitudes qu'il y a à cerner les corpuscules, mais se disant que la corpuscule disparaît, le corpuscule revient, on ne sait pas où il est. Eh bien, nous vivons une sorte d'autodérision au quotidien, parfois nous riant de nous-mêmes, et nous sommes devenus, j'aime cette formulation qui est venue il y a une semaine dans ma pensée de manière spontanée, j'accordais une entrevue à un journaliste et la phrase est venue métaphoriquement, puisque je suis profondément poète, fondamentalement un poète, même si j'écris des romans. Oui. Haïti est devenue une jongleuse, une virtuose du désastre. Alors nous regardons les autres qui, dans la gravité rationalisante et émet des théories et puis qui se croit et dans une sorte de lieu et garanti par la science, garanti par la raison, garanti par, je ne sais pas, l'accumulation d'armes de tout calibre, armes nucléaires. Donc là, c'est la force suffisante, c'est la puissance et le pouvoir suffisant. Nous rions de tout ça parce que tout est dans l'éphémère, tout est dans le fugace. Alors nous continuons notre jeu de jonglerie et de virtuosité dans le désastre.
Voilà, Franck Etienne au micro de Philippe Vanini en 2017.
Aligre FM 93.1.
Yannick Lins, en réécoutant cet entretien, j'ai pensé beaucoup à vos deux héroïnes, en fait. Parce que ce sont des héroïnes confrontées à la violence de l'histoire, à la violence des hommes, à la violence du rejet de soi qui devient un rejet de l'autre. Et elles restent dans l'instant présent.
Tout à fait. Je le disais encore hier. À ma première vente signature, c'est l'instant présent. D'ailleurs, elle dit quelque part, l'espoir n'est pas la seule réponse. Donc, c'est un ancrage permanent dans le présent qui va construire les choses. Et en écoutant Franck, je pense aussi à une phrase que disent souvent les paysans, les paysannes. Comment tu vas? pas pis mal. On ne va jamais dire je suis déprimé, pas pis mal. Quelle que soit la situation, pas pis mal. Donc, c'est une forme de sagesse par rapport au monde. Et il a raison de dire que, bon, quand on prend le 19e siècle haïtien, on voit déjà tout ce qui va se dessiner jusqu'au 21e siècle. Et c'est intéressant pour moi et important pour moi de montrer que Haïti, ce n'est pas Dessalines, Toussaint Louverture et les Tontons Macoute. Il y a une histoire qui se met en place au 19e siècle, comme dans tout territoire du monde. Et c'est important de montrer comment cette stratégie qui va se développer par rapport au projet de la modernité, comment on va se situer par rapport à ça. Comment la spiritualité aussi de ces femmes leur permet d'être en accord avec le monde qui est habité, le respect pour l'eau, pour les arbres, pour les herbes médicinales, pour tout ça, pour les cycles, permettent d'être quelque part dans une harmonie que la modernité justement va casser. Et c'est ça qui est intéressant et qui permet de peut-être mieux comprendre l'histoire d'Haïti, mieux comprendre aussi où on en est aujourd'hui. Voilà.
Et c'est aussi l'importance du vaudou, Yannick Lins, qui a été aussi importé à la Nouvelle-Orléans et que vous abordez, me semble-t-il, dans ce texte, en mettant aussi la force du dialogue avec l'invisible et les invisibles.
Toujours. Alors, il y a toujours cette idée d'invisible. Bon, aujourd'hui, malheureusement, avec ce qu'on pourrait appeler la mondialisation, globalisation, il y a beaucoup d'apports des religions protestantes, mais surtout les évangélistes. Et on sait ce que ça a fait comme ravage dans un pays comme le Brésil, par exemple, aujourd'hui, ou en Haïti. Et ça, c'est une avancée d'une pensée dont on connaît les tenants et les aboutissants. Et je crois que c'est en train de faire un travail assez négatif dans ce sens-là. Mais le substrat le plus important demeure et reste quand même le vaudou. Oui, la culture du vaudou.
Dans votre langue, et particulièrement dans ce roman, Yannick Lins, il m'a semblé qu'il y a une recherche pour retrouver la vibration du monde dans ce qu'elle a de plus organique parfois, et notamment lorsque vous parlez du corps des femmes.
Alors, je dois dire une chose. Le corps et la danse, pendant l'esclavage, danser dans les calendas quand c'était autorisé, je crois que le samedi ou le dimanche, c'était une manière de récupérer un corps souffrant, de le soigner. La danse comme joie, mais la danse comme prière aussi. Parce que ce n'est pas seulement la joie, c'est aussi la prière. On prie les dieux en dansant et quand on est chevauché, c'est la danse qui le permet. On écrit selon son rythme intérieur. C'est ce que j'ai appris ça à Garcia Marquez disait, mais le style, c'est la respiration intérieure. Chacun a sa respiration. Moi, j'ai beaucoup fait de danse depuis mon enfance jusqu'à très tard. Et je pense que la respiration, ma respiration intérieure, va aussi un peu avec les rythmes. Et j'aime écrire en sentant que quelque part, il y a un tempo dans la manière d'écrire. Et c'est comme ça que j'aime faire passer les émotions, voilà, en écrivant. Et c'est comme ça que j'exprime mes propres émotions, mes propres ressentis. Et on peut retrouver ça dans la longueur des phrases, dans la ponctuation aussi, puisque souvent, on peut avoir des phrases nominales, on peut avoir une ponctuation qui permet d'avoir une certaine musique du texte. Je pense que c'est important, parce que la littérature, c'est pas seulement raconter une histoire, c'est aussi travailler la forme et faire passer le ressenti dans la forme. Pour moi, c'est important.
Et dans cette respiration s'imposent parfois les mots, on en parlait tout à l'heure du créole, s'imposent à vous comme une scansion. Ils s'imposent à vous.
Et je vois l'évolution de mon écriture. Quand j'ai commencé à écrire dans la maison du père, très peu de mots.
Ça, ouais.
Et plus je vis en Haïti, plus je suis imprégnée de mots créoles et que ça passe à travers mes textes. Alors je dis toujours, les amis écrivains me disent « Quand est-ce que tu vas écrire en créole ?» J'ai dit « Je ne maîtrise pas assez le créole pour pouvoir écrire en créole comme quelqu'un comme Lionel Trouillot, Mackenzie Orcel ou d'autres. » Mais oui, de plus en plus. Et c'est un peu normal parce que voilà, je vis en Haïti, le créole est partout. De temps en temps, je prends des notes pour pouvoir avoir cette espèce, ce goût-là, presque comme une saveur. Et transmettre cette saveur, parce que c'est ça la littérature. S'il n'y a pas le plaisir et la saveur, bon, non.
Et ça soulève aussi la question du rapport à l'identité qui se joue aussi chez vos deux héroïnes dans des scènes très fortes d'affranchissement. Je pense à une scène de carnaval où Regina, après avoir décidé de quitter l'enfer des merisiers, s'émancipe totalement en participant corps et âme et en riant au carnaval. Cet endroit, cet espace du carnaval, cet espace-temps du carnaval, est-ce qu'il est important aussi dans la construction de sa liberté ?
Alors, le carnaval en Haïti, bon, ces derniers temps, ça a été un peu compliqué avec les gangs. Il n'y a pas eu vraiment de carnaval à Port-au-Prince, du moins. C'est un espace, c'est une parenthèse dans la société. Dans cette parenthèse, un peu, tout est permis, les gens sont masqués, donc on se libère de toutes les oppressions, de tout ce qui... Pendant 3 jours. Les 3 jours gras, ce sont les jours où les gens se déguisent, enfin mettent toute la couche sociale. D'ailleurs, c'est un des rares moments de vraie mixité, parce que tout le monde se rencontre dans la rue, autour de la musique et de la danse. Donc c'est important. Donc ce moment qui est symboliquement le moment d'une libération, elle fait sa propre libération personnelle. Et c'est intéressant parce qu'elle avait volé, elle avait trouvé une sorte de collerette.
Oui.
On ne va pas tout raconter. Et elle met ça parce qu'elle a envie de participer à cette joie collective. Et elle se laisse aller.
Voilà. Et c'est vraiment, vous la mettez en scène dans un moment de libération du...
Mais le
du
carnaval,
corps.
C'est ça.
D'un corps qui a été martyrisé.
Ah oui, c'est ça, exactement. Et c'est un corps qui se libère pendant 3 jours. D'ailleurs, les gens parcourent des kilomètres, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est une telle explosion de joie que c'est fait pour. Et on retrouve le carnaval à la Nouvelle-Orléans aussi.
Oui, c'est un trait d'union entre les deux espaces. On parlait au début de cette interview, Yannick Lins, de la force du silence comme résistance. Mais il y a aussi le poids du silence qu'on jette comme un voile sur les corps violés des femmes.
Alors, je crois que c'est un livre que j'ai commencé en brisant plusieurs silences, en allant puiser dans tout ce qu'on ne m'a pas dit. D'abord, silence sur ma biographie, puisqu'on m'a très peu dit de choses sur la bisaïeule, comme mon aïeul. Bon, je l'ai connu, mais après, quand je posais des questions, on ne m'en disait pas beaucoup. C'est pour ça qu'au début, j'ai pris la précaution de dire « je les ai inventées ». Donc, silence sur la biographie, silence sur l'histoire, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses de ce rapport de Saint-Domingue avec, et en même temps d'Haïti, parce qu'il y a une migration qui va se faire dans l'autre sens aussi, au 19e siècle. Donc, c'est un silence de l'histoire officielle. Je dis « mais ce n'est pas possible qu'on n'ait pas parlé de ça ». Et silence sur les femmes, parce que qui raconte l'histoire et qui parle de qui ? Ce sont les hommes qui ont raconté une histoire officielle, les héros qui ont fait Dessalines, Christophe, etc. On a de plus en plus quelques récits sur des femmes qui ont été des héroïnes pendant l'indépendance, mais les femmes ordinaires, les milliers de femmes complètement invisibilisées. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elles ont un rôle tellement extraordinaire. Quand je lis ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, et quand je vois les femmes aujourd'hui, je me dis, on ne peut pas invisibiliser à ce point. Et d'ailleurs, je les appelle passagères de nuit.
Oui.
Parce qu'elles voyagent la nuit. Mais elles sont quand même du voyage. Voilà. C'est un peu ça pour moi, puiser dans les silences pour en faire quelque chose, des mots que je mets en lumière, quoi. Et une amie m'avait indiqué un très beau livre qui s'appelle en anglais, fait par un noir américain, The Sovereignty of Quiet, c'est-à-dire la majesté ou la souveraineté de la tranquillité. Moi, je me suis dit, bon, j'étais un peu pas tellement complètement satisfaite de ce livre, mais quand même, je vois qu'il allait dans la même direction que moi. Et c'est vrai qu'il y a une majesté du silence. C'est un pouvoir immense. La parole, oui, c'est vrai. Mais le silence, la majesté du silence, la souveraineté du silence, c'est énorme. Et en fait, je retourne un petit peu. On parle de l'histoire officielle, on parle de tout ça, et la souveraineté du silence. Parce que derrière ça, il y a des hommes et des femmes, une intimité, c'est la puissance de l'intime aussi. Et dont on ne parle pas parce que c'est pas important. Quand je pense à une féministe comme Michèle Perrot, j'aime beaucoup quand elle dit « les femmes n'ont pas de passé ». Et là, je leur redonne justement ce poids dans l'histoire, ce poids dans la construction du monde, de mon monde à moi qui est Haïti, quoi, là où je vis. Donc c'était important pour moi de faire ressortir cela. Voilà.
Et le roman, alors on ne le raconte pas,
hein, non.
Mais s'achève quasiment avec l'arrivée en Haïti de Sylvain Salnave. Et donc sur ces soubresauts d'une révolution qui accouche successivement de plusieurs ordres et désordres.
Absolument.
Et il y a une très belle lettre vers la fin du roman dans laquelle vous dites à peu près, je n'ai plus la citation, excusez-moi, en tête, mais que des choses restent à écrire. Ce qui est une manière aussi de revenir à cette histoire d'Haïti dont on parlait tout à l'heure et dont parlait Franck Etienne, qui est dans une espèce d'invention permanente de soi. Absolument. En dépit de toutes les tourmentes et sans sombrer dans le statut de victime, jamais.
Oui, alors très important. Moi, je ne voulais pas... encore une fois, mettre en lumière la victimisation permanente. Pour moi, quand je vis en Haïti, ce n'est pas la victimisation. On est victime, mais on développe une stratégie pour continuer à résister, continuer à survivre et sortir justement de la victimisation. Parce que la victimisation peut vous enfermer. Il faut se battre contre, forcément, mais il faut aussi développer une stratégie de presque de résistance original qu'on va faire naître de notre situation. Parce que les femmes sont victimes de tout ce qu'on veut, mais elles ne sont pas, elles ne se posent pas dans la logique de la victimisation. Elles avancent. Et elles ne regardent pas en arrière. Elles continuent d'avancer. Et pour moi, c'était important de faire ressortir aussi ce message-là.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et c'est aussi... pour vous, une manière de nous rappeler combien les femmes haïtiennes, mais Haïti, qui a été et qui est encore, malgré la misère, malgré le tremblement de terre de 2010, notamment qu'on a encore tous en mémoire, malgré les bourrasques de l'histoire et d'une histoire violente, a contribué beaucoup, a inventé une culture immense, dans tous les arts, et en particulier la peinture et la littérature, ne pas sombrer dans le rôle de victime, c'est aussi rappeler au monde qu'il a quelque chose à apprendre de cette histoire.
Certainement. Quand je dis que la révolution haïtienne pointe du doigt les limites et les contradictions du projet moderne, qui est le projet d'aujourd'hui, c'est un peu ce que disait Franck. L'idée de progrès ou de science qui va nous apporter le bonheur, bon, on peut aller droit dans le mur aussi, puisque c'est une sorte de progrès dévorant la nature, dévorant le paysan haïtien. Il revient à la culture diversifiée. Il rejette la monoculture qui a tué l'agriculture moderne. Donc on se dit, bon, il n'y a pas de spiritualité, je ne parle pas de religion, mais on respecte la nature. Ben, oui, aujourd'hui, on se rend compte qu'il vaudrait mieux quand même respecter la nature, puisqu'on voit toutes les catastrophes qu'a apporté justement une urbanisation sauvage, etc. Donc oui, quelque part, on monte les limites. On parle de droits de l'homme, mais on continue à avoir une hiérarchisation des gens. Donc, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? D'ailleurs, on ne parle même pas des droits de la femme en 1789. Donc, Haïti, quelque part, renvoie. Et en ce sens, elle remet en question vraiment, quelquefois, les bases mêmes de ce projet. Oui, donc... Ce qui est intéressant aussi, ce qui va naître, c'est à la fois une culture savante, donc très influencée par l'Occident, parce qu'on a tout un patrimoine de musique classique. Que le 19e siècle, on a des musiciens classiques. Il y a même eu un concert de Célimène Daudet, Haïti Chérie, je crois qu'elle a appelé cet album-là. Elle a fait des concerts en France sur de la musique classique haïtienne. Donc on a à la fois la musique classique, comme on a un répertoire de musique vaudou. Comme on a un répertoire de musique peut-être plus sociale pour la danse avec le compas ou la meringue. Donc, tout cela fait Haïti. Mais en même temps, l'écrit nous a créé. Parce que déjà Dessalines et Toussaint, voyant que les gouverneurs français envoyés dans l'île avaient des secrétaires, ont aussi employé des secrétaires. Comme ils ne maîtrisaient pas bien le français, ces secrétaires... ont écrit des articles qui sont partis en France, qui sont partis aux États-Unis, en Allemagne, pour dire voilà un peu le projet que nous avions. Donc il y a des intellectuels qui, déjà dans ces pays-là qui se disaient mais il est en train de se passer quelque chose. Donc l'écrit nous a permis, en français, nous a permis de l'être. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il ne faut rien rejeter, moi je veux tout prendre. Je ne vais pas rejeter l'écrit français sous prétexte que non, pas du tout que c'est la langue française, la langue du colon, pas du tout, il faut tout prendre.
Il faut tout prendre.
Absolument.
Mais, oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, Yannick Lyons, et ce sera ma dernière question. Dans votre très belle leçon inaugurale au Collège de France, vous regrettez aussi que la francophonie n'ait pas su prendre ce qu'il y avait à prendre de ces cultures d'ailleurs, et notamment de celle d'Haïti. Vous regrettez une certaine méconnaissance, au fond, hein, de ce trésor patrimonial et de cette contribution des Haïtiens, non seulement à la grande marche de l'histoire, mais aussi à celle des idées.
Oui, tout à fait. Et je d'ailleurs, j'ai dit, heureusement, quand on m'a proposé, j'ai dit, heureusement que vous avez mis monde francophone au pluriel. Parce que il faut décentrer. Il faut commencer par décentrer. Tant qu'on n'a pas fait cet effort et cet exercice de décentrer, on ne pourra pas comprendre le monde. Souvent, je dis aux gens, mais écoutez, quelque part, nous avons une longueur d'avance parce que je suis obligée, moi, je connais ma culture, mais je suis obligée de connaître votre culture. Pour exister, je suis obligée. Alors que le pas inverse n'est pas évident. On peut ne pas connaître la culture haïtienne. Non. Alors, j'ai dit, mais j'ai une longueur d'avance parce que je comprends. Je suis outillée pour comprendre le monde dans sa globalité beaucoup plus que quelqu'un qui est centré sur lui-même. Parce que on est centré sur une certaine puissance, mais on oublie que c'est une puissance fragile, de la mesure où il y a une grande méconnaissance de la majorité du monde. Donc, moi qui suis haïtienne, je suis obligée de connaître un peu ce, parce que je suis faite de la culture de plusieurs ethnies africaines, je suis faite de la culture de ce qui reste des cultures autochtones amérindiennes et de la culture française, parce que la culture du 18e siècle français a forgé aussi même le vaudou. Même les croyances populaires haïtiennes, on en retrouve en Charente ou bien voilà. Donc je suis déjà assez bien outillée pour comprendre la rencontre des mondes, cette troisième mondialisation qui s'est faite en Amérique. Donc je crois qu'il faut, de l'autre côté aussi, que ceux qui se disent puissants puissent se décentrer pour mieux comprendre le monde et peut-être éviter un certain nombre de catastrophes. Voilà.
Merci Yannick Lins d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour parler de votre dernier roman, très très beau roman, Passagère de nuit, publié aux éditions Sabine Vespizer. Roman qu'on a envie de relire à peine, on l'a terminé tant il y a une vraie densité dans ces pages qui vibrent de l'histoire des femmes qui croisent celle d'Haïti. Merci beaucoup d'être
Merci
venu.
Merci pour l'invitation.
Il est 11h55 sur Aligre FM 93.1. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. À la réalisation aujourd'hui, Enrico Mastrogiovanni et René Clancy, que je salue. Cette émission sera bientôt disponible en podcast sur notre site, ainsi que celle que nous avons consacrée à 10h ce matin au festival Formula à Bulla, consacré à la bande dessinée et qui se tiendra ici même à Césure, 12 rue Santeuil. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Thierry Gillibeuf et Cécile Holdban, qui recevront Pierre Bonsaine pour un récit autobiographique intitulé Colombienne. C'est aux éditions Philippe Ray. Je vous retrouve pour ma part dans 2 semaines. Et puis d'ici là, il paraît que ça se fait. Suivez-nous sur les réseaux sociaux puisque nous avons fini par y aller nous aussi. À très bientôt. Bonne semaine à l'écoute des programmes d'Aligre.
Yeah. Yeah, yeah, yeah. Majorie. Bon, peut-être le paquet pour me remplir comme d'arrivée, moi. C'est tout un cinéma pour me charrer, mon yon capri, moi. Ça y a pas connu, c'est que vrai l'amour va complexe. Y a rien dans son moi, mais pour un bac, j'en vexé.
Écoutez Aligre FM 93.1.